Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Nouvelle attaque à Komanda Centre en Ituri la nuit dernière. Au moins 8 civils ont trouvé la mort, des véhicules et plusieurs maisons sont incendiées. L'armée a réussi à repousser ses assaillants seulement d'un nombreux habitants enfouis dans les villages voisins. Les ambassadeurs des pays de l'Union européenne plaident pour la tenue des élections dans le délai constitutionnel. Les diplomates européens l'ont dit hier vendredi au cours des échanges avec le président et le premier vice-président de l'Assemblée nationale. La situation économique de la ville de Boma au Congo central est en baisse. Même au port, les activités tournent au ralenti. Que faire pour remédier à cette crise économique? Pour en parler, nous recevons dans cette édition Apollinaire Nsokangimbi, coordonnateur de la société civile de Boma, qui propose quelques pistes de solutions. Voilà tout pour le sommet. Mesdames et messieurs, bonjour. En Ituri, au moins 8 civils tués, des véhicules et plusieurs maisons incendiées. C'est le bilan malheureusement provisoire de l'attaque par des hommes armés dans la nuit dernière du centre de Komanda à 75 km au sud de Bunia. Selon des sources sécuritaires, les assaillants qui portaient des armes à feu et des machettes ont également emmené en brousse une dizaine de personnes. L'armée a réussi à repousser ses ennemis et un calme précaire s'observe dans la zone. Mais de nombreux habitants ont fui dans les villages voisins. Reportage de Marcel Kizabiamungu, rendu par Clarisse Ziyindula.
Il était 20h, heure locale, ce vendredi soir, quand le premier coup de feu a été entendu à Komanda Centre. Des sources concordantes sur place rapportent que ces hommes armés non identifiés se sont introduits simultanément dans plusieurs quartiers de Komanda, ce qui a créé une psychose parmi la population. La Croix-Rouge locale dit avoir vu les corps des 7 civils ce samedi matin qui gisaient encore sur le sol. Parmi les victimes, il y a la femme d'un pasteur bien connu dans le milieu. Ces miliciens ont incendié également 4 véhicules, dont 3 camions et une dizaine de maisons. D'autres sources affirment qu'une dizaine de personnes ont été prises en otage par ces inciviques. Certains habitants qui avaient déjà regagné le centre commercial de Komanda après l'attaque dimanche dernier de Makayanga à 5 km ont fui de nouveau. Le porte-parole de l'armée, le lieutenant Jules Ngongo, affirme que l'armée a réussi à déloger l'ennemi. En ce moment, la situation reste confuse à Komanda où une forte présence des militaires est observée. Signalons que c'est la 3e attaque attribuée aux rebelles ADF par des sources militaires dans la zone en l'espace d'une semaine. Bunia, Clarisse Zindula, Radio Okapi.
Toujours en rapport avec cette attaque, signalons que les casquets bleus de la MONUSCO ont ouvert le feu la nuit dernière sur ses assaillants. Pas moins de 3 patrouilles de la mission onusienne ont été déployées dans et autour de Komanda pour prêter main forte au FRDC et assurer ainsi la protection des civils, notamment dans la zone du marché et de l'hôpital de Komanda. La riposte des casquets bleus a contraint ces miliciens à battre en retraite, abandonnant une arme et environ 100 cartouches sur place. À noter qu'aucune victime n'est signalée parmi le personnel de la MONUSCO. Au reste en Ituri, la société civile de Mambasa a lancé vendredi une campagne de collecte des biens et des fonds en faveur des déplacés qui ont fui la dernière attaque des rebelles ADF à Komanda et ses environs. Selon son président John Vuleverio, des centaines de personnes sont enregistrées à l'ancien site des déplacés de Makoko et d'autres sont installées dans des édifices des églises. Ces gens vivent dans des conditions difficiles. Ils n'ont ni médicaments, ni nourriture, ni vêtements. Leurs abris de fortune suintent. Il ajoute que cette opération de collecte de fonds et de biens qui s'est fait porte à porte vise à soulager les souffrances de ces sinistrés. John Vuleverio a été joint au téléphone par Isaac Remoyope.
Ce que nous sommes en train de demander, c'est de manière vraiment dirigeante que les personnes de bonne volonté viennent en aide cette population qui est aujourd'hui dans des conditions si difficiles. Alors, à notre niveau, nous avons lancé une campagne de sensibilisation de la population d'une manière individuelle qui pourra circuler maison par maison en train de sensibiliser les gens pour que le tout bénéfice que t'as soit fait quelque chose afin d'amener à se déplacer. C'est à partir d'aujourd'hui que nous avons lancé ça. Et nous sommes déjà à pleine activité. Il pourra peut-être les permettre ici de venir à des eaux primaires telles que l'alimentation, les vêtements, même acheter certains d'autres bâches pour essayer de renforcer les différents sites qui sont dans les camps et aussi voir les autres filles qui errent dans des églises, qui peuvent aussi rejoindre les leurs qui sont dans les camps.
Pendant ces temps au sud Kivu, la MONUSCO appelle à la mobilisation générale de tous les acteurs pour le retour d'une paix durable dans les hauts plateaux d'Uvira et de Fizi. En effet, d'après Karna Soro, chef de bureau de la MONUSCO sud Kivu, la paix reste la seule condition pour accueillir les projets d'investissement pour l'encadrement des jeunes après le retrait de la mission onusienne. Telle est la réaction du chef de bureau de la MONUSCO au sud Kivu en rapport avec les messages de haine qui continuent de circuler dans les réseaux sociaux appelant les jeunes à la violence. Karna Soro, chef de bureau de la MONUSCO sud Kivu, est au micro de Emmanuel Elamejiwa Kabidi.
En tant que MONUSCO, nous allons continuer à travailler dans le cadre du plan d'action à la pacification de la zone. Continuer à mobiliser les acteurs constructifs, les acteurs qui souhaitent qu'il y ait la paix et que ces populations puissent vaquer à leurs occupations. Et il convient aussi que tous les acteurs puissent comprendre qu'il n'est de vraie paix que si les populations arrivent à se prendre en charge. Une fois que la MONUSCO va entamer son départ, il faut que les investisseurs puissent venir, il faut qu'il y ait des entreprises qui se créent. Comme vous le savez, il n'y a pas de route, il n'y a pas d'infrastructure. Il faut qu'il y ait des personnes prêtes à investir de leurs ressources pour construire ces routes-là. Mais tout ça va demander un environnement propice. Personne ne viendra avec son argent dans un endroit où il sait que, en un seul mot, en une seule phrase, quelqu'un peut mettre les jeunes dans la rue. Et donc, il est temps qu'on regarde dans la perspective du long terme. Nous devons tous travailler avec les autorités, avec les jeunes, avec les femmes, à essayer de construire et structurer cet environnement positif. J'insiste sur le mot positif. Ce qui importe, c'est assurer l'avenir des Congolais qui résident dans cette zone.
Les ambassadeurs des pays de l'Union européenne plaident pour la tenue des élections dans les délais constitutionnels en République démocratique du Congo. Les diplomates européens l'ont dit hier, vendredi, au cours des échanges avec le président et le premier vice-président de l'Assemblée nationale. À l'occasion, le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mboso Kodiampwanga, a expliqué à la délégation de l'Union européenne tous les contours de la discussion autour de la mise en place de la nouvelle équipe de la CENI. Pour l'UE, le souci est que les élections se tiennent dans les délais et elle est disposée à accompagner la RDC pour la préparation et l'organisation des élections dans le respect de la Constitution, si la RDC le demande. On écoute ici l'ambassadeur de l'Union européenne en RDC, Jean-Marc Chantegnier, au micro de Michel Kifindangoy.
Nous avons été reçus par le président de l'Assemblée nationale, un petit peu dans le cadre des discussions que nous avons sur le dialogue politique. Nous a longuement parlé, notamment de la composition de la CENI, et en fait nous a expliqué un petit peu toutes les discussions qu'il y avait pour la composition et la mise en place du nouveau bureau et de la nouvelle CENI. Et nous avons bien sûr pris note avec intérêt. Nous sommes dans un dialogue politique, ce que je disais tout à l'heure, avec la République démocratique du Congo, qui est prévu dans le cadre de nos accords internationaux, de l'accord de Cotonou. Nous respectons totalement la souveraineté de la République démocratique du Congo et nous sommes soucieux que les élections se tiennent dans les délais prévus par la Constitution congolaise. Nous sommes disposés à accompagner la République démocratique du Congo, si elle le demande, pour la préparation et l'organisation de ces élections, en respectant totalement la Constitution de la République démocratique du Congo.
Autre nouvelle, la rentrée scolaire aura bel et bien lieu ce lundi 4 octobre 2021 sur l'ensemble du territoire national. Au sud Kivu, une réunion préparatoire de la rentrée scolaire 2021-2022 a eu lieu hier vendredi 1er octobre à l'Athénée d'Ibanda. Cette réunion présidée par les directeurs de l'EPST sud Kivu 1 a connu la participation des membres du comité élargi de l'EPST sud Kivu 1 et des partenaires membres du cluster éducation. Le prophète Jean-Pierre Yoibo Kété est au micro de Rachel Kessembangou.
Je viens de présider la réunion du comité provincial élargi en vue de préparer une rentrée scolaire 2021-2022 apaisée et réussie. J'ai fait la restitution des assises spéciales de la promotion scolaire 2021 et j'ai profité de l'occasion pour annoncer au cadre de la province éducationnelle la nécessité de la campagne d'inscription des enfants de 6 à 7 ans aux écoles avec l'appui de l'UNICEF. Tous les cadres provinciaux et sous-provinciaux ont été édifiés de la gestion axée sur les résultats pour une année scolaire 2021-2022 réussie sous le thème rigueur et excellence pour le redressement de l'enseignement. Et enfin, la campagne de sensibilisation des gestionnaires sur l'acte d'engagement du personnel enseignant au code de bonne conduite de l'enseignant en vue de réglementer les comportements de l'enseignant vis-à-vis de soi-même, de l'apprenant, de la communauté et d'autres partenaires éducatifs, conformément aux compétences éthiques professionnelles dont il doit faire montre au regard des défis auxquels il est appelé à faire face dans le milieu éducatif.
Alors, à quelques jours de la reprise des cours, les prix de fournitures scolaires ont augmenté à Butembo, Nord Kivu. Pour certains produits, la hausse peut aller jusqu'à 10 dollars américains. Les revendeurs justifient cette situation par l'insécurité dans la région qui décourage les gros importateurs à faire venir d'importantes quantités de marchandises dans la ville, ce qui crée une relative pénurie sur le marché. Suivez ce reportage de Grévis Salomon.
À la veille de la rentrée scolaire, l'engouement habituel n'est pas observé au centre commercial de Butembo. Pas d'engouement non plus au marché central. Les rares des parents que nous avons croisés au marché se plaignent de la hausse du prix des fournitures. En dehors des uniformes cousus localement, tous les objets classiques coûtent plus cher que l'année dernière. Kassere Kamukulu Samuel et Mwindo Press, deux revendeurs des objets classiques au marché central, justifient cette hausse du prix par l'insécurité qui caractérise la zone et qui perturbe l'importation des marchandises.
La vente ne vole pas bien. Il y a beaucoup de difficultés parce que on brûle nos marchandises dans la route de Beni. Le box que nous avons vendu à 4 000, à ce jour à 5 000, 6 dollars. Les cartons de 10 dollars nous fait 36 dollars, 40.
Les cartons de carré coûtaient 35 dollars, mais l'année passée c'était à 30, 20 quelques dollars. C'est à cause de la sécurité que les prix augmentent. Les clients ne viennent pas.
De nombreux parents rencontrés dans les rues de la ville appellent à l'intervention du gouvernement pour le rétablissement de la paix dans la région pour permettre aux importateurs d'approvisionner correctement la ville en fournitures scolaires. Butembo, Grévis, Salumu, Radio Kapi.
Autre nouvelle, mesdames et messieurs, 27 millions de Congolais sont victimes de l'insécurité alimentaire. Alors, pour y faire face, la FAO plaide pour l'augmentation urgente du budget alloué à l'agriculture en 2022. Au cours d'un échange hier vendredi avec le président du Sénat, le représentant pays de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO, estime qu'au regard des statistiques alarmantes dues à la malnutrition en RDC, une politique agricole et un financement adéquat sont plus que nécessaires. Pour y parvenir, la FAO recommande notamment l'adhésion du Parlement de la RDC à l'Alliance des parlementaires de la CEAC. Astrid Ongone-Obane, représentant pays de la FAO, est au micro de Michel Kifindangoy.
Je viens d'être reçu par le président du Sénat. Je lui ai présenté deux préoccupations principales. La première faisait allusion aux alliances parlementaires pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Tous les pays pratiquement de la CEAC ont déjà mis en place ces alliances parlementaires pour la sécurité alimentaire et je suis venu exhorter le président du Sénat à faire tout ce qui est en son pouvoir pour que cette alliance soit mise en place. Surtout que nous avons reçu une lettre du président de l'Assemblée nationale qui nous a demandé en tant que FAO d'accompagner la RDC. Le deuxième sujet que nous avons abordé, c'est le financement du secteur agricole. Parce qu'aujourd'hui, en RDC, nous sommes à peu près à 27 millions de personnes qui sont en insécurité alimentaire. C'est un chiffre beaucoup trop élevé qui est pratiquement inacceptable. Donc, il faut absolument qu'il y ait des politiques, qu'il y ait des cadres, mais qu'il y ait surtout un financement conséquent pour accompagner ce secteur.
En réaction, le président du Sénat salue la démarche de la FAO et suggère la création des banques agricoles avant de promettre l'implication de sa chambre pour l'augmentation du crédit alloué à l'agriculture. Autre nouvelle, dans la province de la Tchopo, l'inspection provinciale de la police a organisé hier à l'esplanade de la poste de Kisangani la cérémonie officielle de reconnaissance des grades de 194 officiers supérieurs et subalternes promus récemment par le commandant suprême des FARDC et de la police nationale congolaise. Le point avec Jacques Moukokole.
Les 194 éléments de la police nationale congolaise ont bénéficié de la reconnaissance de leur grade au cours d'une cérémonie officielle présidée par le gouverneur des provinces par intérim, Maurice Abibou Sakapela. Tout a commencé par leur présentation par l'appel nominal des heureux promus, appel fait par le commandant provincial de la police, Patrick Sabiti. Après, il s'en est suivi l'exhortation du gouverneur des provinces par intérim, Maurice Habibou Sakapela. Selon lui, cette promotion décidée par le chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, est une récompense méritée pour un travail bien accompli. Il les a exhortés à continuer sur la même lancée pour mériter davantage la confiance de la hiérarchie. À ceux qui n'ont pas été promus, le gouverneur intérimaire les a appelés à la patience, puisque, a-t-il souligné, le panier circule encore. Cette cérémonie s'est clôturée par un imposant défilé de toutes les unités de la PNC. Jacques Mkonkole, Kisangani, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Au Tchad, ce samedi, la coalition d'opposition et de la société civile Wakit-Tama avait prévu de manifester pour protester contre la gestion du pays par les autorités de transition. Mais ceux qui se sont rassemblés dans les rues de N'Djamena ont été dispersés par les forces de l'ordre. La coalition et les autorités n'ont pas trouvé d'accord sur le parcours du rassemblement. Et puis aux États-Unis, plus de 700 000 personnes ont succombé à la COVID-19 depuis le début de la pandémie, selon le comptage de l'université Johns Hopkins. Vendredi 1er octobre 2021, l'équivalent de la population de la capitale Washington. Ce sombre cap vient rappeler que des centaines d'Américains meurent toujours chaque jour du coronavirus malgré la campagne de vaccination.
L'invité.
Notre invité dans cette édition du journal est Apollinaire Nsokangimbi, coordonnateur de la société civile de Boma. D'après lui, la situation économique de la ville de Boma au Congo central est en baisse. Même au port, les activités tournent au ralenti. Que faire pour remédier à cette crise économique? Nsokangimbi propose quelques pistes de solutions. Il s'entretient avec Nana Plurish Mambou. Suivez.
Monsieur Apollinaire Ngimbi Nsoka, bonjour.
Bonjour.
Quel est l'état de santé actuel de l'économie de la ville de Boma?
Oui, au fait, la santé économique de la ville n'est pas bonne. D'abord, il y a beaucoup d'entreprises qui ferment et en conséquence, il y a création de chômage dans la ville. Ça, c'est de un. De deux, Boma est une ville portière. Et durant le temps, nous avons constaté une baisse très sensible des activités portières dans la ville de Boma. Et cette baisse sensible a comme conséquence les jeunes gens qui font les déclarants ont émigré vers Matadi. Ils sont tous presque partis, à tel point qu'il n'y a presque rien dans notre ville. Et par mois, nous pouvons voir un bateau ou des bateaux venir ici. Mais il y a aussi un problème sérieux. C'est quoi? C'est que, vous savez, la ville de Boma a aussi des grandes entreprises, mais qui ne payent pas. Et souvent, ce sont ces entreprises publiques qui ont été amendées ou aménagées, devenir des entreprises privées ou devenir des sociétés par action à responsabilité limitée. Par exemple, vous avez la CVM, Congolaise des Voies Maritimes, vous avez l'ex-ONATRA. Ces entreprises regorgent beaucoup de main-d'œuvre, beaucoup de travailleurs. Je donne le cas de la CVM, qui a 32 mois d'impayement. Et comme conséquence, comme le salaire n'est pas payé dans la ville, donc l'argent ne circule pas aussi dans la ville, il y a une pauvreté monétaire dans la ville qui conduit à la pauvreté de la vie. Et ce qui fait que les affaires ne tournent pas.
Comment est-ce que cette situation impacte sur le social des habitants de Boma?
Sur le social, c'est quoi? Il y a eu une montée des criminalités dans la ville. Et puis, il y a eu une baisse sensible du niveau d'éducation aussi. Mais aussi, la question de sécurité sociale se pose. Vous savez, le salaire a aussi un effet social chez nous. Et quand on n'est pas payé, on ne sait pas investir pour sa vieillesse. De la sécurité sociale est dérangée. Et là, qu'est-ce que nous avons constaté? Beaucoup de nos parents qui ont eu leur retraite n'ont pas vraiment survécu. Ils sont morts parce que la retraite les a menés dans l'incertitude. Et nous avons aussi constaté que beaucoup de nos frères qui ont perdu l'emploi, par exemple à la Bralima, ainsi de suite, n'ont pas vraiment survécu comme il se doit. Au niveau culturel, nous perdons aussi les valeurs parce que nous devenons pauvres. Il n'y a plus de vertu. Et ça, on le constate dans le comportement des jeunes garçons, de la jeune fille, dans le comportement de la femme, dans le comportement de l'homme. On le constate que la question de la dignité n'est plus une question à prendre en considération.
Quel secteur le gouvernement peut toucher pour essayer de remonter la pente?
Oui, le secteur que l'État peut toucher pour essayer de remonter la pente. Il faut à tout prix, dans un bref délai, redonner la valeur au port. Parce qu'avec les activités portières, il y a des effets collatéraux à tous les niveaux. Au niveau hôtelier, au niveau des restaurants, des activités génératrices des recettes. Je dois vous dire, madame, et toutes les femmes là qui faisaient les omelettes,
le long de la grande route de la ville n'existe plus. Ils sont tous partis. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a plus un preneur des omelettes. Il faut voir aussi comment relancer les industries qui ont existé. Les cas de Bralima. S'il faut négocier, il faut donner de l'intérêt pour que nous puissions avoir au moins une industrie dans la zone. Les autres entreprises fermées qui ont des conséquences avec le port, quand on relance le port, ces entreprises-là vont venir. À long terme, la ville doit se doter d'un plan de développement. La ville de Boma n'a pas un plan de développement local. Et dans ce plan de développement, les Bomatraciens auront réfléchi sur ce que va être la ville dans 5 ans ou dans 10 ans. Et à ce moment-là, certains secteurs déclencheurs de l'activité économique vont être répertoriés. Et c'est dans ces secteurs qu'on va pomper les moyens financiers avec les systèmes bancaires et les opérateurs économiques qui sont dans la ville.
Pensez-vous que pour relancer les activités portuaires dans la ville de Boma, il faut nécessairement fermer les ports privés?
Fermer les ports privés, ce n'est pas ça la solution pour relancer. Mais je crois qu'il faut prendre quelques mesures qui font que tous les ports puissent respirer. Et aussi, il faut que l'État aide aux ports de Boma d'avoir des infrastructures nécessaires. Vous pouvez comprendre qu'on a encore des grilles qui ont existé quand moi j'avais 5 ans. Avec ces grilles-là ne peuvent pas faire le travail qu'il faut. Il faut éviter que les navires puissent faire plus de 5 jours au port. Mais ici, ben, vous avez les navires qui font même une semaine parce qu'il n'y a pas l'outillage qu'il faut pour vider les navires à un bref délai. Il faut rendre le port de Boma compétitif.
Monsieur Apollinaire Sokangimbi, merci.
Merci.
Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis.